Forum Opéra. Cave Canem. Camille de Reyck.
Ravi de vous retrouver pour ce Cave Canem spécial confinement avec nos confinés du monde entier. À commencer par Roselyne Bachelot qui est à Paris. Bonjour Roselyne.
Bonjour Camille.
Et Sylvain Faure qui lui est plutôt du côté de la Côte Basque. Bonjour Sylvain.
Bonjour Camille.
Et à Vienne, le pianiste français et lyricomane fou Selim Mazari. Bonjour Selim.
Bonjour Camille.
Alors au sommaire de cette émission, on va parler du nouveau récital de Roberto Alagna, qui il est vrai n'est plus si nouveau que ça, mais qui est néanmoins consacré à Caruso. On va parler d'un Winterreise qui est apparu et qu'on doit au baryton suédois Peter Mattei. On va parler du dernier disque de Franco Fagioli. Et enfin, on parlera également des finances de l'Opéra de Paris, qui, si j'en crois le dernier numéro de l'Express, avec un brillant article signé Sylvain Faure, serait aux abois. Sylvain, on en parlera dans un instant. Et puis si on a le temps, dans ce qu'avec Anem, on abordera encore deux, trois sujets d'actualité lyrique. Mais on commence par cet extrait du dernier album de Roberto Alagna.
Vieni al mare, nella barchetta v'è un letto di fior. La bianca prora somiglia all'altare, l'onde le stelle sfavillan d'amor. O mia vicirella, porterò sì mia piccella. Affidi all'amor, tutta la notte vuol dirti che t'amo, tutta la notte vuol stringerti al cor. O mia vicirella, sul mare il paradiso
hommage de Roberto Alagna à Caruso dans ce qu'avait Canem, qui, je vous le rappelle, réunit Roselyne Bachelot, Sylvain Faure et Selim Mazari. Alors, Sylvain Faure, vous qui êtes à la fois très proche de Roberto Alagna, qui avait signé des livrets de ses disques, qui considérait quasiment comme un membre de la famille par le clan Alagna, peut-être auriez-vous envie de nous résumer peut-être le concept de ce disque ?
C'est un concept qui renvoie à une série de concerts qu'il avait déjà donné il y a quelques années, et où en réalité il rend un hommage appuyé à la figure de Caruso, à la fois parce que c'est une figure qui était très présente dans sa famille. Ses grands-parents, si je ne me trompe, avaient croisé le ténor en question à New York, et aussi parce que c'est un des premiers chanteurs qu'il ait entendu au disque et dont il est en quelque sorte décortiqué la technique pour créer la sienne. Donc c'est vraiment un fil rouge dans son parcours de chanteur. Et j'ajoute que l'éclectisme, dont d'ailleurs ce disque témoigne, et dont Caruso était très fier, fait partie aussi de la façon dont Roberto Alagna envisage sa propre carrière. D'où une identification assez forte d'Alagna avec ce chanteur, et d'où le fait que ce disque essaye de refléter dans son programme la personnalité de Caruso.
Il n'est pas le premier à le faire, hein, à mettre ses pas sur les pas d'un grand prédécesseur. On se souvient de Bartoli qui avait donné un bel hommage à Maria Malibran. Là, dans ce cas de figure, c'est compliqué vu qu'on a des témoignages de Caruso. On sait que les deux hommes n'ont pas exactement la même typologie vocale. Mais donc, Sylvain, avant de donner la parole à vos petits comparses, quel est exactement le fil rouge du disque ?
Le fil rouge du disque, en fait, c'est vraiment le répertoire de Caruso, qui présente beaucoup de zones de recoupement avec le répertoire d'Alagna, mais pas strictement. Et donc, en réalité, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois une identification d'Alagna, mais en réalité, le disque est constitué comporte aussi des airs qu'Alagna ne chante pas ou n'a pas toujours chanté, y compris d'ailleurs ce clin d'œil à une des séquences de la vie de Caruso où la basse se retrouvant à Fon en pleine représentation de la Bohème, c'est Caruso qui, tournant le dos au public, a entonné l'air de la fin de l'opéra, Vecchia Zimara, normalement réservé à une basse, mais on sait que Caruso avait des graves très puissants. Donc c'est vraiment la silhouette de Caruso dessinée par Alagna, c'est une rencontre intéressante.
Roselyne Bachelot, ce que Sylvain décrit, ça a l'air d'être un projet discographique tout à fait ambitieux. J'imagine que vous avez eu le temps de l'écouter, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors, j'adore Roberto Alagna, et de toute façon, le disque, le CD qu'il fait, je l'avais écouté en partie dans un récital qu'il avait donné au Théâtre des Champs-Élysées, et j'avais bien aimé. Je suis pas une fanat des récitals, pour moi, un opéra, ça a un début, un milieu et une fin, il y a des gens qui se parlent, si j'ose dire, et donc, je suis vraiment pas la matrice de récital. Le concept de Caruso, moi je n'ai pas assez de connaissances sur Caruso pour savoir, sur Caruso plus exactement, pour mettre pour appuyer sur la bonne syllabe. Je ne suis pas suffisamment connaisseuse de Caruso pour savoir si cette recherche, cette respiration Roberto Alagna a revendiqué dans une interview sur France Musique est réelle. Dit très bien qu'il ne souhaite pas imiter Caruso, mais qu'il souhaite plutôt retrouver son esprit. Alors ça donne un récital qui est un peu de briques et de brocs. Il aligne Rossini, Handel, Pergolèse, Puccini, Tchaïkovski, Massenet. On a un peu du mal à se retrouver parce que je pense que le récital a une valeur à partir du moment où il y a une sorte de ligne mélodique, de consistance, de cohérence. Et pour moi, l'appel à Caruso est pas assez signifiant pour justifier le choix des œuvres. Mais on retrouve les qualités de Roberto Alagna, évidemment, le soleil de sa voix, cette lumière, cette diction qu'il y a chez Alagna, et ça, c'est véritablement une rencontre tout à fait bien. Puis alors, moi, je ne suis pas suffisamment connaisseur. mieux, mais il y a des raretés comme c'est comme l'air de Louis Niedermayer que je ne connaissais pas, ou la sérénade de Don Juan de Tchaïkovski, pardon pour les amateurs, moi je l'avais jamais entendu. C'est aussi un élément de découverte à côté de tubes qui sont évidemment tout à fait connus, et bien entendu on retrouve l'inisable Santa Lucia, on se régale toujours avec ça. Et ça lui convient bien aussi, ce mélange. On dirait qu'il s'est fixé une sorte de challenge, et globalement c'est un challenge réussi.
Alors, Céline Mazary, je vous donne la parole, sachant que vous êtes pianiste et que vous passez quasiment chacune de vos soirées à l'Opéra de Vienne, où vous entendez tous les grands chanteurs. Il y a un petit jeu chez les fans de lyrique qui est, dès qu'un ténor a passé la barre des 30 ans, c'est de scruter la moindre défaillance vocale pour pouvoir annoncer la fin à la fois du colosse et la fin d'une ère. Et il faut reconnaître que Roberto Alagna, à l'âge qu'il a, à savoir un âge respectable, mais pas qu'à Kokoschim, offre encore des choses absolument magnifiques et qui sont très très lointaines de la déchéance.
Oui, tout à fait. Je veux même dire, pour avoir assisté parfois à certaines représentations d'Alagna où on pouvait s'attendre à une fatigue vocale certaine, parce que annoncée au début de l'opéra, j'ai eu des surprises extraordinaires, et je trouve même que on peut pas dire qu'après tant de carrière on peut pas ne pas nier qu'il ne soit pas très loin de la fin, et à cette approche, je trouve que ça donne justement un certain hasard, et il y a un petit stress qui arrive lorsqu'on l'entend et qu'on apprécie. C'est d'ailleurs aussi en ça que je rejoins l'avis de Rosine, dans la mesure où je trouve que certains airs d'opéra, ça se mérite, dans la mesure où ça se mérite après 2 heures d'attente, après une construction narrative, après aussi tout simplement une évolution d'un personnage. Et pour moi, Roberto Alagna, c'est une des plus grandes bêtes de scène qui existent à l'heure actuelle. Enfin, pas que pour moi, j'invente rien en disant ça. Et je trouve que je reste toujours sur ma faim lorsque j'entends des disques de ce ténor, parce que je trouve qu'on a finalement affaire qu'à 20% du personnage. Alors certes, oui, la voix est magnifique, mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de vouloir l'entendre en vrai et de vouloir le voir jouer et vouloir le voir, même comme quand il a des faiblesses vocales. Je me souviens encore d'une première de Don Carlo à Paris à la fin de l'année 2019, l'année dernière, où il a malheureusement dû annuler après le premier acte. Et malgré tout, il y avait quelque chose qui sortait de cette performance, même si évidemment on était tous très stressés parce qu'on se rendait compte qu'il y avait quelques problèmes vocaux.
Sylvain Faure, c'est un petit jeu auquel on peut se livrer. Roberto Alagna a 56 ans. À quel niveau de leur carrière étaient les autres grands ténors à 56 ans? Je pense à Pavarotti, à Domingo. Quels sont les points de comparaison?
En réalité, c'est ça qui, moi, me surprend beaucoup avec Alagna. C'est que il a vraiment une vraie longévité. Il a connu une crise vocale il y a quoi, peut-être une dizaine d'années, une crise vocale, personnelle, probablement liée à des éléments de sa vie en général. Et non seulement il a surmonté cette crise, mais regardez le répertoire qu'il s'apprête à affronter la saison prochaine, sous réserve évidemment des annulations. En gros, il n'y a que des rôles de ténor extrêmement lourds. Il n'y a que des Cagnot, des Toridou, il y a un Lohengrin. Et donc, je veux dire, pour répondre à votre question, Camille, ce qui est certain, c'est que des ténors de 56 ans, qui en plus restent par le timbre et par même le physique, des ténors lyriques, et qui abordent ce répertoire en enchaînant les Tosca et les Cavalleria, etc., il n'y en a pas beaucoup, franchement. Il n'y en a pas beaucoup, et il n'y en a pas beaucoup qui le font sans transposer. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait à ce rythme-là. Et donc, ce qui est impressionnant chez Alagna, je parlais de longévité, mais c'est surtout la santé. Il a une santé vocale absolument incroyable, incroyable.
Roselyne, on le voyait en regardant le film de Ron Howard consacré à Luciano Pavarotti, ce que c'est que d'être un grand ténor ou, le cas échéant, une grande soprano. La pression, l'entreprise tout entière qui repose sur deux cordes vocales fragiles sur lesquelles la moindre goutte de buée peut provoquer l'accident. Est-ce qu'on ne regarde pas les ténors et les grandes sopranos avec un tout petit peu plus de pitié et d'humanité quand on prend réellement conscience de l'enjeu qui reposent sur leurs épaules?
Oui, et c'est évidemment la peur au ventre qu'à partir d'un certain moment, les grandes, et peut-être surtout d'ailleurs les grandes sopranes, parce qu'il y a évidemment la question d'un peu de cette trivialité biologique, mais de la ménopause qui était la terreur des chanteuses. Et en général, on se dit, est-ce que je fais pas la saison de trop? C'est d'ailleurs ce qui avait amené Caruso à arrêter sa carrière. Avant, je crois qu'il a arrêté sa carrière à 48 ans.
Juste avant sa ménopause.
Juste avant son ménopause. Mais vous aussi, messieurs, ne faites pas les flambants, là. Hein, d'accord. Bon, ça existe aussi. Mais pas tout à fait de la même façon et avec la même brutalité. Donc c'est une peur, et c'est cette peur qu'il faut maîtriser, de faire le rôle qu'on ne devrait pas chanter, ou de faire la saison en plus. On a bien vu, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement pour le projet de Lohengrin à Bayreuth, où il avait renoncé à cela. Bon, il le reprend à Munich, je crois, de mémoire, hein, je ne sais plus où il le reprend d'ailleurs. Mais on voit bien que ce que ça doit représenter comme trouille de prendre de pareils rôles. Alors, est-ce que il y a de la pitié de la part des spectateurs? Je trouve que justement il n'y en a pas beaucoup.
Non, effectivement.
Et je suis toujours surprise de voir, bon, sur des petites contre-performances vocales qui peuvent arriver à tout moment, des gens se mettent à huer. Je leur dis pauvre. J'allais dire pauvre connard, mais comme je suis une femme bien élevée, je vais dire pauvres imbéciles. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que d'être sur une scène et de chanter ces rôles impossibles? Je trouve que justement le public est très très sévère.
Et finalement, Roselyne, c'est un peu comme être une femme ou un homme politique aujourd'hui, être un ténor. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on finit tout le temps par se faire huer.
Oui, c'est ça, exactement. Oui, d'ailleurs, on parle des ténors de la politique. Effectivement, on a raison de. Et on parle des couacs qu'ils font, c'est très à la mode en ce moment. Les canards, ça existe en politique et dans le champ lyrique.
Mais je revoyais l'autre jour, Roselyne, votre grand discours sur le PACS tenu à l'Assemblée nationale face à une majorité contre votre propre groupe de droite qui était contre vous à l'occasion. Est-ce qu'on a le même genre de stress? Est-ce qu'on a aussi la boule au ventre et la gorge nouée?
Et oui, on a en face, avant de prononcer un grand discours ou avant les questions au gouvernement, on a un trac épouvantable. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, comme beaucoup de chanteurs d'opéra, quand j'avais un grand discours à prononcer ou une séance de questions au gouvernement, j'arrivais seul dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une chose que font aussi les chanteurs, c'est-à-dire qu'ils apprivoisent le lieu. C'est très rare, les chanteurs qui arrivent au dernier moment, et que certains le font, mais et qui se jettent sur la scène comme cela, de façon brutale. En général, ils apprivoisent les lieux, et ça faisait beaucoup rire les huissiers qui me voyaient toute seule m'imprégner de l'air des lieux pour arriver à surmonter mon stress et ma peur.
Selim, on peut peut-être revenir une dernière fois vers vous et puis passer au prochain sujet qui sera Peter Mattei, baryton suédois qui tire son inspiration d'Elvis Presley. Mais vous qui voyez tous les soirs quasiment à l'Opéra de Vienne des géants affronter leur propre mythologie, est-ce qu'il n'y a parfois pas quelque chose d'exaltant à voir quelqu'un triompher de l'a priori qu'on pourrait avoir de lui ou d'elle?
C'est justement en général ce qui rend une soirée magique. C'est quand un chanteur renverse les propres préjugés, les propres préjugés du spectateur aussi. D'ailleurs, ça a été le cas, je le dis très honnêtement, en tant que humble spectateur, lorsque j'ai entendu pour la première fois depuis très longtemps, il y a peut-être 3-4 ans de cela, Alania, justement, dans Tourandot. Et justement, je m'attendais pas forcément à me prendre une claque ce soir-là, et ça a été le cas, en fait. Et il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que plus je vais à l'opéra, plus je suis indulgent envers les chanteurs en ce qui concerne les faiblesses vocales, les faiblesses musicales, dont, en tant que pianiste, parfois, ça m'arrive de sourire. On peut se moquer souvent les instrumentistes des lacunes solfégiques des chanteurs. Et plus on est spectateur à l'opéra, plus on leur pardonne ce genre de choses. Par contre, à l'inverse, et il y a un chien derrière moi, pardonnez-moi,
à l'inverse...
Les chiens aboient, la caravane passe, Céline passe.
il me fait peur, ce chien. Pardon, ce qui était juste derrière moi. Et donc, je disais à l'inverse, par contre, ce qui nous paraît plus impardonnable, c'est lorsqu'on a affaire à une performance désincarnée. Lorsqu'on a un chanteur qui... On sent qu'il aura été recruté pour un simple air.
On ne peut jamais le dire de Roberto Alagna. Quoi qu'on pense de Roberto Alagna, performance désincarnée, ça n'existe pas à son répertoire. Alors, restez bien avec nous, parce que dans quelques instants, on va parler de la pétition lancée par Ludovic Tézier, soutenue par le grand Jonas Kaufmann. On va parler du disque de Peter Mattei. On va aussi évoquer le dernier disque de Franco Fagioli. Et puis, en fin d'émission, un petit point sur la situation de l'Opéra de Paris avec des finances dans le rouge. Voici pour l'heure Peter Mattei. Ce Winterize paru chez BIS, grand label suédois, du très grand baryton suédois Peter Mattei, disque qui est apparu il y a quelques semaines. Sylvain Faure, vous aviez rencontré Peter Mattei dans le cadre d'un hommage à Dietrich Fischer-Dieskau. Peter Mattei vous expliquait comment il avait découvert la voix de Fischer-Dieskau. C'était un jour, il était adolescent, ils étaient entre amis dans une voiture et ils avaient tout d'un coup mis la radio qui était passée d'une chaîne de rock à une chaîne classique. Et puis là, tout d'un coup, fendant la nuit, la voix de Fischer-Dieskau dans la Saint-Mathieu. Et Peter Mattei qui dit « J'ai eu l'impression d'entendre quelque chose de magnétique comme du Elvis. » Elvis restant à lui aussi la référence centrale à son art. Que dire de ce grand baryton qui est un baryton de Happy Few mais qui compte sans doute parmi les meilleurs chanteurs de nos scènes?
Peter Mattei, ce qui fait le prix de ce disque dont on va parler dans une seconde, c'est que c'est un chanteur qui refuse le studio. C'est un chanteur qui ne veut pas être enregistré, c'est un chanteur qui se voue uniquement à la scène. Et je dois dire que la moindre apparition de Mattei sur une scène est un moment absolument éblouissant. D'abord parce qu'il a une voix incroyablement malléable, vraiment comme Fischer-Dieskau, c'est-à-dire qu'il est dynamique, tout à fait subtil, mais qui vont jusqu'au fond de la salle, y compris quand il interprète du Wagner. Donc c'est vraiment un baryton lyrique splendide au sens où il a une voix très sonore, mais il n'a pas une voix bruyante. Et puis, il a une stature et une capacité de jeu, d'action sur scène absolument extraordinaire. Il peut aussi bien être totalement désinvolte Latin Lover comme émacié ou chargé de tragédie comme dans Parsifal. Enfin, il est absolument totalement versatile de ce point de vue, totalement pluriel. Et c'est ce qui en fait, c'est très juste de dire que c'est un chanteur pour Happy Few parce que c'est vraiment pas du tout une star, c'est pas du tout quelqu'un qui va jouer le star system, qui va jouer des caprices de star, c'est quelqu'un de très accessible, de très modeste. Et c'est probablement un des tout grands chanteurs d'opéra de notre temps, avec des qualités qui le mettent tout à fait à part.
Alors Selim Mazari, vu que Peter Mattei est un invité régulier de la Staatsoper, vous pourriez peut-être nous décrire, avant même de parler du disque, l'impression physique que fait la voix de Peter Mattei.
Alors la première fois que je l'ai entendu, précisément à l'Opéra de Vienne, c'était dans son rôle fameux dans Don Giovanni. Et j'étais à ce moment-là dans les places debout de là, les fameuses places debout qui sont tout en haut.
Et qui s'appellent
les places debout du parterre.
Les
galeries Stéplitz.
Genau.
Et donc j'étais là et j'y suis allé, j'avais hâte de l'entendre. Je le connaissais évidemment, je l'avais déjà entendu. Et ce qui m'a frappé justement, comme dit Sylvain, c'est à la fois la largeur de la voix, c'est-à-dire que je pense évidemment à la canzonetta de Don Giovanni, où il a justement une voix extrêmement sucrée, il croune tout en projetant quatre fois plus fort que n'importe qui d'autre. Et ça, c'est hallucinant. Après, ses collègues m'ont déjà souvent dit, j'en ai parlé avec Adam Plachetka, qui a souvent été Leporello à ses côtés. Ils l'ont fait ensemble à Vienne, ils l'ont fait au Met, et il m'a dit à quel point c'était épuisant pour lui de chanter avec Peter Mattei, parce qu'il me racontait qu'à chaque incarnation de n'importe quel rôle, il fera tout différemment. Et ce qui fait qu'il challenge énormément ses partenaires. Par exemple, je peux même aussi vous le dire que la continuiste de Don Giovanni, il y a 7-8 ans, s'attendait par exemple à le voir entrer sur le côté jardin et commence une longue introduction et le voilà qui saute côté court, de nulle part, imprévu. Et ça, ce côté complètement fou et très stressant pour ses collègues peut parfois être désagréable, mais pour nous, nous donne à chaque fois ce côté vivant et ce côté incarné qu'il a.
Oui, il y a une présence fantomatique presque et tellement de facilité que ça en devient presque déconcertant. Roselyne Bachelot, est-ce que vous avez été sensible au charme du bel Hidalgo suédois ?
J'y mettrais un petit bémol. Alors, bien sûr, je suis une fan de Peter Mattei et il n'y a pas de... L'élégance, la netteté de la voix, cette luxuriance, cette somptuosité, vraiment son âme fortas aux côtés de Jonas Kaufmann était un de mes grands moments d'opéra. Justement, bien sûr, dans cette affaire des Winterreise, il y a tellement de références absolues que c'est très bien ce qu'il fait. C'est formidable, c'est net, c'est soigné, c'est expressif. Mais j'ai eu du mal à retrouver l'émotion que j'attends de ces Winterreise. Il y a une élégance un peu distanciée chez lui dans son interprétation qui a fait que je n'ai pas complètement marché. Et si je dois mettre une interprétation des Winterreise dans ma discothèque, eh bien, je suis désolé pour ce cœur des vierges énamourées, je ne mettrai pas Peter Mattei.
Mais plutôt,
je sens que je vais me faire lâcher.
Mais plutôt le Winterreise de Roberto Alagna, mais avec accompagnement de
non,
quatuor pour lutte.
Arrêtez de dire des conneries, pardon des bêtises.
Alors, Sylvain, ce que dit Roselyne est quand même assez juste. On pourrait parler d'une voix qui serait d'une telle plasticité, d'un tel velours, qu'à la limite, elle détournerait les yeux, et en l'occurrence les oreilles, du sujet dramatique. On pourrait penser à un sculpteur qui utiliserait un marbre d'une telle qualité qu'on ne verrait plus sa Perséphone, mais uniquement les marbrures.
Oui, enfin, en tout cas, dans cette interprétation de Winterreise, là où je rejoins tout à fait Roselyne, c'est sur l'adjectif distancié. Il y a en effet quelque chose chez lui qui ne pèse pas vraiment, qui ne s'empèse pas non plus. Il change d'une certaine façon la perception que nous avons de ce cycle d'être une espèce de tragédie personnelle qui se déroule jusqu'à l'extinction totale et à la désespérance absolue. Et ça, c'est vrai. Il n'y a pas cette dimension dans son interprétation. Et de ce point de vue, c'est sans doute une interprétation du cycle qui ne peut pas prendre rang aux côtés des grandes interprétations beaucoup plus tragiques, beaucoup plus véristes ou vraies, disons. En revanche, il y a un apport, c'est-à-dire que cette façon qu'il a d'interpréter avec une espèce de distance, une espèce de froideur, et en même temps une voix d'une ductilité totale, produit une impression qu'on n'a pas forcément dans d'autres versions. Quelque chose comme quelque chose de plus froid, quelque chose de plus objectif, quelque chose de plus, comment dirais-je, de moins affecté aussi, affecté au sens impacté, affecté, touché. Et du coup, il est presque le témoin du voyage plus qu'il n'est le voyageur. Et ça, c'est... En effet, ça ne fait pas de ce Winterreise peut-être le Winterreise par excellence, mais c'est une lecture, une vision que j'ai trouvée particulièrement intéressante.
D'ailleurs, question intéressante, Sylvain, et avant de passer au sujet suivant, s'il y avait un Winterreise à retenir, pour vous, ce serait lequel ?
Il y en a beaucoup, mais pour moi, c'est évidemment Fiordiscaro. Je sais bien que c'est lui qui gagne à tous les coups.
Oui, mais c'est
Mais
sur Discord avec qui? Parce que c'est ça le combat
moi,
aussi.
j'ai vraiment une affection particulière pour la version avec Brendel.
Et vous, Roselyne?
Peter Pierce.
Oh, avec Benjamin
avec
Britten.
Avec Britten au piano, quand même.
Et vous, Selim?
J'aime beaucoup Gérard Moore, quand même. Avec Six Chers Disco, évidemment. C'est celle à laquelle j'ai été nourri enfant.
Alors, on va écouter Dick Ray, donc c'est la corneille ou le corbeau, hein, extrait de Winter Eyes, toujours avec Peter Matthey. On va dire le nom de son pianiste, même si c'est un podcast consacré à la voix. On n'a rien, voilà, c'est contre les pianistes, Lars David Nilsson. Et puis, on parlera de cette pétition lancée par Ludovic Tézier et soutenue par le grand Jonas Kaufmann. Cette corneille extrait de Winter Eyes avec Lars David Nilsson et puis Peter Matthey qui chantait. On va aborder cette pétition lancée par Ludovic Tézier à un moment dont la dramaturgie est très complexe parce que tout le monde est conscient du drame, tout le monde est conscient de la tragédie qui s'annonce pour les artistes et aussi pour les institutions et où tout le monde se demande ce qu'il y a à faire en plus des mesures prises par l'État, si tant est que mesures il y ait. Alors Roselyne, expliquez-nous peut-être ce qu'a voulu exprimer Ludovic Tézier dans cette pétition et s'il y a lieu de la soutenir.
Alors, effectivement, à travers une pétition lancée sur le site fameux change.org, Ludovic Tézier et Jonas Kaufmann en appellent à un sauvetage européen de la culture. La démarche est intéressante parce qu'elle a une dimension globale européenne. On rejoint, parce qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées, comme l'appel de Unisson avec Stanislas de Barberac et d'autres chanteurs. Là, cette dimension pas uniquement franco-française, dans un monde qui est évidemment un monde global, que celui de l'art lyrique, paraît tout à fait intéressant. Pour une pétition lancée dans un monde lyrique qui est quand même un monde assez élitiste, quoi qu'on en dise, cette pétition a déjà recueilli au jour où nous enregistrons 15 000 signatures, ce qui est quand même une démarche intéressante. Alors, on voit bien par contre les limites de l'exercice, puisque cet appel à la puissance publique, la culture ne fait pas, hélas, partie de l'intervention communautaire européenne. c'est un appel européen, mais qui se retournera chacun vers les autorités nationales pour qu'elles prennent en compte cette affaire. Moi, j'ai été assez déçu de voir que dans le discours du Premier ministre, il y a quelques jours, qui lançait le plan de déconfinement, il n'y avait pas un mot sur la culture. Et c'est un manque cruel, étant donné les implications économiques qui sont derrière, je le dis, même pour les gens qui ne sont pas fanats de culture et qui pensent peut-être qu'on jette son argent par les fenêtres en parlant et en finançant la culture. Donc c'est quelque chose qui doit maintenant déborder le simple monde des happy few. Et c'est sans doute pour ceux qui, comme nous, s'intéressent à ces sujets, l'occasion d'expliquer ce qu'est la culture et qu'on a besoin de culture en période où chacun doute de son avenir et de sa santé.
Et pour prendre un équivalent pas trop éloigné de la France, la première ministre belge, Sophie Villemès, a essuyé le même genre de critique, vu qu'au terme d'une longue conférence de presse consacrée au déconfinement, elle a abordé toutes sortes d'initiatives qui seraient tolérées, notamment celle du canoë-kayak, mais pas un mot pour la culture. Sylvain Faure, là aussi, est-ce qu'une pétition n'est pas qu'un vœu pieux dans ce contexte-là?
Disons, une pétition, c'est une manière de rappeler aux gouvernants qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis d'un secteur particulier qui est celui de la culture. Ce qui m'apparaît, en fait, c'est que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que le spectacle vivant, dont les chanteurs sont évidemment porteurs, n'a pas perdu son public. C'est juste qu'il ne peut plus le rencontrer. Et donc c'est assez frustrant parce que on parle beaucoup d'argent, de financement, etc., etc. Mais en réalité, le ministère de la Culture en France, je suis sûr que s'il pouvait immédiatement allonger des dizaines de millions d'euros, il le ferait. Le problème, c'est qu'il ne les a pas. Mais le problème inverse, c'est qu'il n'a pas non plus, et c'est triste, suffisamment manifestement d'imagination pour trouver d'autres moyens. C'est-à-dire qu'on réduit cette affaire, et c'est ça qui me préoccupe, on réduit beaucoup cette affaire à une question de financement, une question d'argent, une question de budget, une question de d'indemnisation, etc., pour que tout cela ne meure pas. Et évidemment, c'est très important. Mais il doit bien y avoir quand même aussi des idées qu'on peut pousser, qu'on peut avoir, pour que les artistes puissent se produire, pour que le public puisse accéder à ces artistes, pour que les artistes soient payés. Parce que là aussi, c'est très sympathique que les artistes gratuitement soutiennent le moral des populations en postant des photos ou des vidéos d'eux chantant Aïda dans leur salon. Mais un artiste, c'est fait pour être sur scène, c'est fait pour être rémunéré. Un artiste qui est dans son salon, c'est plus un artiste. Et donc, je pense qu'il y a en effet une dimension budgétaire, ministérielle, etc. Mais moi, je dis, le public aussi pourrait peut-être réfléchir, les chanteurs pourraient réfléchir avec leur public. Il ne faut peut-être pas non plus tout attendre de la puissance publique. Il y a peut-être des théâtres qui pourraient prendre des initiatives. Alors, on a le Met a fait cette espèce de gala digital avec 45 chanteurs, je ne sais quoi. Bon, c'est pas génial à mon avis, mais c'est déjà ça. Et il y a peut-être d'autres initiatives qui pourraient être prises. Bref, je trouve que de toute façon, comme tout cela est appelé à durer, il va falloir en fait avoir des idées. Et c'est aujourd'hui ce qui manque. Et le seul reproche que je ferai à cette pétition, qui évidemment est plein de mérite, parce qu'il faut que les gens qui souffrent et qui vont en baver lèvent la main pour le dire, mais le seul reproche, c'est qu'il faut aussi avoir des idées. Il faut aussi proposer autre chose. Il faut aussi proposer des formules. Il faut aussi proposer une manière de faire qui ne serait pas forcément la manière de faire qu'on préférerait, la manière de faire d'avant, mais qui serait une manière de continuer à travailler, à se produire, à chanter, à jouer.
Alors, oui, puis aussi, Sylvain, si je peux intervenir, il y a peut-être aussi dans le monde lyrique une question de solidarité devant les catastrophes individuelles et collectives qui peuvent arriver. C'est au moment où la catastrophe est là, et j'allais dire où il est un peu trop tard, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan lyrique, qu'on intervient. Et oui. C'est vrai que c'est un monde globalement où chacun a joué le chacun pour soi, a chanté le chacun pour soi, parce que c'est d'abord la structure du monde lyrique qui abandonne des vieux chanteurs au moment où ils sont en fin de carrière et où ils auraient besoin d'un coup de main, ou quand une catastrophe arrive, qui se disent... on peut se demander s'il ne faut pas réfléchir aussi à la façon dont fonctionne le monde lyrique avec un peu plus de solidarité que ça n'a été le cas jusqu'ici.
Alors, je suis entièrement d'accord. Sylvain, si vous permettez, je vais donner la parole à Céline Mazary parce que lui est au cœur du cyclone. 25 ans, révélation des victoires de la musique. Donc, ce que la nation compte de plus fameux parmi sa jeune génération. Céline, vous avez connu, comme tous vos collègues, l'arrêt brusque de tous vos concerts. Et puis, cette incertitude, quand vais-je remonter sur scène? Est-ce que vous avez été témoin jusqu'à présent d'initiatives, d'idées qui était peut-être prompte à vous rassurer un tout petit peu?
Pour l'instant, non. J'en viens à la conclusion de Sylvain de dire qu'il faut quand même aller de son initiative personnelle. Je ne compte pas vraiment sur ni des aides de l'État, ni même des aides privées pour pouvoir évoluer. Mais je pense quand même qu'il y a deux types de personnes particulièrement fragilisées par cette crise. Il y a les débuts de carrière et les fins de carrière. Il y a un début de carrière, c'est un investissement. C'est parfois parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et je pense à l'heure actuelle, moi, à vrai dire, finalement, je ne pense pas être le plus à plaindre. J'ai eu déjà le bonheur d'enregistrer, il n'y a pas si longtemps que ça, un CD solo avec des variations de Beethoven. Je suis très, très heureux. Il y a beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a des jeunes qui n'ont pas forcément encore le temps, qui n'ont pas, eu la chance ni les moyens de pouvoir justement prendre parole et qui sont obligés de subvenir à leurs besoins autrement qu'en s'isolant et en travaillant exclusivement pour monter des concerts, monter des programmes, et pour qui ça peut être compliqué. Je ne veux pas être alarmiste, mais si ça perdure, il peut y avoir quand même une courte, certes, mais une génération qui puisse en souffrir. Et puis inversement, il y a les fins de carrière. Il y a, comme l'évoquait Rosine, il y a les gens qui justement commencent à se demander quand ils vont s'arrêter et pour qui parler de report de saison ne marche pas forcément. Il y a des gens pour qui peut-être l'année prochaine pouvait être la dernière. Et ça peut être très compliqué. Et ces deux cas de figure, malheureusement, c'est même pas une question de moyens ni quoi que ce soit. Je pense qu'il faudrait se poser la question de comment on pourrait justement aider. Et puis, c'est pas malheureusement, évidemment, même si ça me fait toujours plaisir de participer à faire des vidéos et je vois plein d'initiatives formidables, mais c'est un peu comme la presse. Lorsqu'Internet est arrivé et s'est popularisé, il a bien fallu quand même que les articles soient payants parce que la presse n'est pas gratuite.
Sauf sur Forum Opéra, bien sûr, qui reste gratuit.
Forum Opéra, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de... Bien, voilà, nous, on peut pas.
Bien sûr.
On peut pas faire des concerts.
Je me permets de rendre la parole à Sylvain qui voulait réagir au propos de Roselyne.
Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec cette idée que les chanteurs lyriques en particulier ont été poussés par l'évolution de leur métier à un individualisme de plus en plus grand, au fait qu'ils ne font que se croiser lors des représentations et qu'ils ne passent de temps ensemble que le temps des répétitions, etc. Et au fond, il y a pas de... C'est très étrange, parce que ce n'est pas une corporation des chanteurs. Comme d'ailleurs les pianistes de concert, etc. Enfin, ce sont des solistes par nature, des individus, l'addition d'individus. Et en réalité, on voit bien en effet que tout ça produit des effets négatifs dans le rapport de force quand il faut qu'il ait lieu. Quand il faut qu'il ait lieu, en effet... pour un chanteur qui est maltraité, pour des questions simplement d'équité de traitement entre les artistes, pour simplement la façon dont les contrats sont conclus. Bon, et on voit très bien aujourd'hui l'incroyable disparité contractuelle entre les artistes, entre ceux qui ont eu des répétitions payées, ceux qui ne les ont pas eu, ceux qui ont en main des contrats qui étaient déjà signés très très à l'avance et qui vont être dénoncés contre indemnité, d'autres qui n'avaient que des engagements de principe, mais sans contrat. Enfin, tout ça est entièrement à repenser. Et honnêtement, un syndicat des chanteurs ou une fédération des chanteurs, sans aller jusqu'à un militantisme forcené, pourrait quand même d'une manière ou d'une autre, rendre la position professionnelle des chanteurs un peu plus cohérente.
On peut peut-être rappeler cette situation invraisemblable connue certains chanteurs qui ont répété une production pendant 4 voire 5 semaines, et puis les représentations n'ayant pas eu lieu, se sont renvoyés chez eux sans la moindre indemnité, ce qui quand même est le témoin d'une pratique assez archaïque dans les métiers de l'art lyrique.
Mais ils sont complètement livrés. Moi, je vais vous donner un exemple très, très bête. Les chanteurs, quand ils vont dans des théâtres qui sont par définition quasiment toujours des villes où ils n'habitent pas, doivent eux-mêmes pourvoir à la location de leur logement. Et donc, ils passent, comme tout le monde, par Airbnb, etc. Moi, j'ai connu un chanteur qui est arrivé à Paris, et le Airbnb qu'on lui avait loué était en fait un immeuble de bureaux, et l'appartement qu'on lui avait loué, il n'existait pas. Donc, c'était une arnaque à Airbnb. Bon, mais vous imaginez qu'en fait, comme il avait déboursé une très grande partie de son cachet, en réalité, il a déboursé une grande partie de son cachet pour un Airbnb qui n'existait pas, et il a dû débourser l'autre partie pour un Airbnb qui existe. C'est quand même des conditions d'exercice. Enfin, tout ça n'est pas raisonnable. C'est vraiment pousser trop loin l'abandon, la solitude, le fait que les chanteurs ne bénéficient absolument d'aucun soutien, sont entièrement, sauf pour les plus connus, les plus célèbres et les plus reconnus.
Sylvain, on doit avancer.
Il y a quand même un côté livré à soi-même qui aujourd'hui se paye très très cher.
Et vous pouvez suivre d'ailleurs les investigations de Vincent Agrèche, journaliste notamment chez Diapason, qui sur le site de Diapason publie des enquêtes sur l'inside du monde de la musique, particulièrement maintenant, et on y découvre des choses absolument stupéfiantes sur la pratique de la musique classique et de l'art lyrique. De toute façon, c'est un débat qui, pendant le confinement, a vocation à être prolongé, et j'espère pouvoir encore en parler avec vous trois. On va écouter un extrait de cet album Veni, Vidi, Vinci, consacré au compositeur Vinci, donc napolitain, par le contre-ténor argentin Franco Fagioli.
Sorge dolore
Franco Fagioli avec Il Pomodoro, ce disque Veni, Vidi, Vinci, avec, bon, je me tourne vers le latiniste de service, Sylvain Faure. Il y a là comme un jeu de mots.
Oui, d'une subtilité, inouïe, accessible à des lecteurs de 7 ans de Astérix.
Ceci dit, il m'a expliqué le jeu de mots, Franco Fagioli, qui, je le souligne par parenthèse, est un homme absolument adorable, en disant que c'est parce qu'il avait tenu le rôle de Jules César dans un opéra de Vinci qui s'était permis le jeu de mots, qui à ses yeux prenait sens. Voilà.
Ah, mais voilà, c'est décodé alors, enfin, d'accord.
C'est tout ce que vous voulez dire ?
Ah non, pas du tout. Moi, j'ignorais tout. Je ne savais pas que ce grand peintre était aussi musicien. Mais je l'ai découvert avec bonheur.
Salim Mazari.
On avance sur son temps. Hein.
Oui, c'est ça. Oui.
Céline, vous êtes rigolo, vous dites rien, alors que l'autre jour, vous étiez en train de me parler de Franco Fagioli, mais comme la dernière des folles lyriques du haut de Poulailler.
Non, bah justement, c'est dans l'ère de Artaserse, c'est que je l'ai découvert, honnêtement, il y a peu, comme quoi j'ai honte, j'espère que je ne recevrai pas de lettres d'insultes. Mais j'ai halluciné tout simplement devant la longueur d'ambitus de sa voix. C'est proprement du sol grave jusqu'à un contre-fa de soprane, c'est hallucinant. Et j'admets que j'ai écouté quelques pistes, j'ai pas pu avoir l'album en intégralité, mais j'ai hâte d'écouter cet album. Du peu que j'en ai entendu, en tout cas, je retrouve justement un chanteur très expressif, un timbre de voix que j'aime beaucoup. Et j'allais dire, grâce au CD, peut-être qu'on a moins certaines mimiques qui pourraient déranger parfois de certains de ses récitals. Parce qu'on voit, alors je sais que c'est absolument, je déconseille quiconque de regarder mes vidéos.
Vous êtes regardé quand vous jouez à une fugue de Beethoven.
Exactement. Donc, mais je sais que ça en dérange. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, c'est dit. Mais par contre, voilà, j'avoue que j'ai hâte d'entendre en récital ce contre-ténor, et bien entendu aussi au disque.
Roselyne Bachelot.
Alors, bon, moi j'avais lu la critique de ce récital de Leonardo Vinci par Franco Fagioli sur Forum Opéra, où vraiment la critique est d'une dureté inouïe. Vraiment, il était habillé pour l'hiver, le bien-aimé Fagioli.
Et,
oui, absolument. Vous reprendrez la chose. Et c'est vrai que j'avais entendu, non pas le récital auquel je n'assistais pas, mais une prise où ce qui surtout était la vidéo qui était là montrait un orchestre squelettique avec 6 personnes et le côté cabotinage de Fagioli était absolument insupportable. Là, effectivement, et comme le dit très justement Céline, l'enregistrement, alors je n'ai pas tout écouté parce que dans mon site de streaming, il n'y a que trois
il n'était pas encore totalement sorti.
Voilà, du CD, et ouais. Je crois que dans quelques jours, on aura l'intégralité. Je dois dire que j'ai complètement revisé mon avis par rapport à ce qui était le récital de la salle Gaveau, parce que là, d'abord, visiblement, je ne peux pas compter les instrumentistes, mais là, il y en a bien au moins une vingtaine. C'est-à-dire qu'on se trouve avec la même chef d'orchestre, je crois, c'est la violoniste Zafira Voleva, mais on se trouve avec quelque chose qui est plus en correspondance avec la voix magnifique, parce que même si on est horripilé par son côté cabotin et grimaçant, là, c'est complètement gommé. je vais me précipiter sur l'enregistrement dès qu'il sera au complet, mais d'ores et déjà, je suis vraiment, j'écoute en boucle le fameux « Sous la lide, elle soit mort » de l'Ermelinda, hein. C'est vraiment tout à fait d'une virtuosité, d'une ampleur. C'est bon partout, c'est bon dans les basses, les aigus, les machins, tout est bien. Et je suis tombée amoureuse de cet enregistrement.
Et moi, j'avoue que les contre-ténors ne sont pas totalement ma tasse de thé, mais j'ai eu un long entretien avec Franco Fagioli. Et je veux dire que non seulement c'est un chanteur exceptionnel, mais en plus, c'est un être humain tout à fait charmant et d'une très grande simplicité. Je vais quand même laisser à Sylvain la chance de dire quelque chose sur ce disque, même si...
Oui. Ça ne valait pas tout à l'heure.
Non, si, c'était très bien, très bien.
Non, mais j'ai une chose à dire quand même. C'est que Vinci, en fait, est un compositeur qui a été redécouvert, je ne sais pas si vous vous souvenez, par toute la série que faisait Opus 111 sur l'opéra napolitain. Et à l'époque, ça avait donné lieu à quelques disques, notamment dirigés, si je me souviens bien, par Antonio Florio. Puis, Jarouski a dû enregistrer un de ses opéras, ça doit être Arte Adversée, je pense.
Oui, c'est ça.
Mais
oui.
En réalité, ce qui est vraiment remarquable, et c'est valable, pour beaucoup d'auteurs, pour beaucoup de compositeurs, de quelque époque qu'ils soient, c'est vraiment à tout à l'honneur des chanteurs, c'est que quand un très grand chanteur, comme Fagioli, s'empare d'un répertoire qu'on considérerait comme mineur, voire marginal, tout d'un coup, on se rend compte des ressources incroyables musicales qu'il arrive à mettre en valeur et à mettre au jour. Et c'est valable pour beaucoup de compositeurs qui ont été recouverts par l'oubli et qui, malheureusement, sont servis souvent par des interprètes valeureux, mais un peu de second niveau. Et en fait, accéder vraiment à la grandeur d'un compositeur requiert de grands interprètes.
Vous voyez quand vous voulez, Sylvain. Fagioli qui par ailleurs disait qu'à ses yeux, Vinci était un peu un chaînon manquant entre les baroques et les classiques. Bon, ça coûte rien de le dire, mais c'est sûr que...
Bon.
Fut dans la continuité.
Enfin, dans le chaînon manquant, il y a surtout manquant. Hein.
Pauvre homme qui doit se retourner dans sa tombe napolitaine et qui ne nous demandait rien. On va terminer ce qu'il y avait Canem, parce qu'on a été ensemble pour un petit bout de temps, là, quand même, par un sujet qui était cher au cœur de Roselyne. C'est un article trash et même choc, non pas signé dans le Nouveau Détective, mais dans l'Express, par notre ami Sylvain, et qui est consacré à son sujet préféré, à savoir Stéphane Lissner et l'Opéra de Paris. Alors, Sylvain Faure. On va vous demander dans un instant si vous avez une petite poupée de Stéphane Lissner plantée d'aiguilles sous votre lit à baldaquin. Mais je vais d'abord évidemment donner la parole à Roselyne, vu que c'est elle qui a souhaité parler de cet article. De quoi s'agit-il exactement, Roselyne ?
Eh bien, c'est vrai qu'il y a des monuments culturels et que le premier de nos monuments culturels est l'Opéra de Paris. Et l'Opéra de Paris paraîtrait à des yeux non informés ou même informés comme une sorte d'institution indestructible. On n'a pas à s'en faire, l'Opéra de Paris existera toujours. Et dans un article lumineux qui montre où on est l'Opéra de Paris aujourd'hui à travers des changements de doctrine politique qui viennent de loin, à travers des mouvements sociaux qui viennent de loin, à travers des problèmes de gouvernance qui ne sont pas du seul fait de la direction actuelle de l'Opéra de Paris, pourquoi l'Opéra de Paris est en grand danger. Et tout est dit dans l'article de l'Express que j'invite vraiment à lire parce que Sylvain a fait un boulot formidable.
Bon, Sylvain...
Merci.
Voilà. Sylvain, vous ne pouvez évidemment que plus soyez.
Tout à fait, c'est très remarquable. C'est très vrai, ce qui vient d'être dit.
Qu'est-ce qui est à la base de ce travail, à part...
Non, mais on a fondé avec Sylvain un club d'admiration mutuelle. Ça fonctionne très, très bien.
Oui, et puis ça ne mange pas de pain. Vous pourriez nous inclure aussi, non. Comme ça, on ferait une triangulaire. Alors, Sylvain, qu'est-ce qui est à la base de cette passion dévorante qui vous lie à l'Opéra de Paris, et surtout depuis que son dernier directeur a pris les rênes?
Non, mais d'abord, c'est quand même la plus grosse, avec peut-être le Louvre, institution culturelle française. Et depuis, depuis pas mal de temps, c'est quand même... Bon, et c'est pour ça, l'article n'est pas du tout, n'accable absolument pas la direction actuelle. Il cherche plutôt à comprendre comment on en est arrivé là. Ce que vient de dire Roselyne, ça date pas d'hier. En réalité, là, je dois dire que ceux qui sont à blâmer, ce ne sont pas les directeurs successifs, c'est plutôt l'État. Parce que l'État a mis sur la table un modèle de théâtre, un modèle économique, un modèle politique aussi, qui ne tient que si l'État est très présent à son chevet. Or, l'État s'en est retiré très progressivement, mais enfin sûrement, avec constance, jusqu'au moment où aujourd'hui, on a un opéra qui vit majoritairement de ressources privées, hein, billetterie et mécénat, et où l'État, tout en gardant une main de fer sur la dimension sociale, le financement, la trésorerie, etc., n'est présent qu'à 45%. Et donc, c'est une dérive qui a entraîné d'autres dérives, des dérives artistiques, des dérives sociales, des dérives de toutes sortes. Et aujourd'hui, malheureusement, entre la réforme des retraites qui a coûté très cher à l'opéra, c'est absolument inédit le nombre d'annulations qui a eu lieu, et maintenant le Covid, bah, la maison est simplement, n'a pas simplement un genou en terre, mais deux genoux en terre. Et la vérité, c'est que cet article n'a pas été produit par moi spontanément, c'est qu'on m'a demandé de l'écrire simplement parce que cela commence à se voir, c'est-à-dire que cela commence à se dire que l'Opéra de Paris, ce monument qui paraît éternel et qui a fêté ses 350 ans, n'est en réalité qu'une institution humaine, et que si personne sur le plan politique, sur le plan artistique, sur le plan culturel ne prend conscience qu'une institution n'est que le fait d'une volonté d'hommes, et de femmes évidemment, mais enfin de personnalités qui se retrouvent dans un projet et qui font que ce projet fonctionne, eh ben, tout ça disparaît, tout simplement. Et aujourd'hui, cette volonté, cette conscience du projet et cette volonté que ce projet se perpétue, elle n'est là nulle part. Honnêtement, elle n'est là nulle part. Donc, c'est un article qui ne dramatise pas, mais qui simplement essaie de raconter pourquoi on en est là.
Merci Sylvain. On aura de toute façon l'occasion de vous lire dans l'Express pour de plus amples informations. Céline Mazaré, vu que vous êtes encore avec les deux pieds dans le métier, je ne vais pas vous faire aborder un sujet aussi sulfureux. Je résumerai peut-être pour ceux qui prennent cette émission en cours de route qu'on aura dit du bien de Roberto Alagna, de l'Opéra de Paris, de Peter Mattei, de son pianiste aussi. On aura dit du bien de Ludovic Tézier, de Ludovic Kaufmann. On aura dit du bien
de Ludovic Kaufmann, de Jean.
C'est ça, Jonas Kaufmann, oui, absolument. Mais on aura aussi dit du bien de Leonardo Vinci.
Personne n'a critiqué David.
Non, absolument. Voilà. Céline Mazaré, je rappelle que votre disque, qui a paru chez Mirare et qui a eu d'ores et déjà un immense succès, se concentre sur les variations de Beethoven. Oui. Non, mais je tenais
à le dire. J'espère.
Oui.
Merci.
Et à voir dans toute bonne discothèque.
Voilà. Et en plus, vous avez
ou alors une... maintenant, malheureusement, dans toute playlist Spotify, vu que personne ne peut encore aller dans les
listes. Évidemment.
Voilà. La playlist Spotify, après 7 milliards de lectures, vous rapportera 3,37 €. Ce qui, évidemment, est un modèle économique qui demande à être suivi dans la durée. Merci infiniment, Roselyne Bachelot, d'avoir été avec nous.
Merci, Camille. Merci à tous les garçons.
Merci, Céline Mazaré. Merci à Sylvain Faure. Et on se retrouve bientôt pour un prochain qu'avec Adem de confinement.